poule aux vanilles.
Je pense que j'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille !
Salut, c'est Yann, vous écoutez Canal B et c'est l'émission Deux boules vanille, votre rendez-vous estival sur Canal B. On va pouvoir retrouver dans quelques instants, d'ici une vingtaine de minutes, la rediffusion de Champ Libre A, saison 2, épisode 2. C'était le 25 octobre dernier que j'ai pu rencontrer Simon Rochepot, un scénariste de bande dessinée qui travaille pas mal sur la bande dessinée documentaire. Et il nous parlait principalement ce jour-là de L'homme qui en a trop vu, paru chez Futuropolis, avec les dessins de Isaac Vance et puis les souvenirs d'Ali Arkady, photojournaliste envoyé couvrir le conflit irakien. On retrouve avant ça Sozik Lebaye qui a eu envie d'en savoir un peu plus sur les travailleurs de la nuit. Et aujourd'hui, elle parle avec Loïc Mounier, anesthésiste à la clinique de la sagesse à Rennes. Il se confie sur son activité au service d'obstétrique, mais il travaille aussi hors de la nuit et pas seulement en obstétrique.
Je travaille essentiellement de jour quand même. Et puis de nuit pour faire tourner l'activité d'obstétrique à presque 100%, puisque la nuit, en dehors de l'obstétrique, il pourrait y avoir quelques reprises chirurgicales de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est pour les péridurales ou les césariennes. Donc le travail qui est autour des naissances. La nuit, c'est une ambiance qui est différente. J'ai choisi ma spécialité dans laquelle je savais que je pouvais un jour, au moment où je choisissais cette spécialité, je savais que je pouvais faire des gardes, mais j'ai réalisé seulement longtemps après que finalement, il n'y avait pas tant de spécialités médicales que ça qui faisaient des gardes. J'avais moi l'impression, à l'époque où j'étais étudiant, que en fait c'était le lot de toutes les spécialités, et j'ai découvert a posteriori qu'en fait j'étais dans celle probablement où il y a le plus de gardes, avec justement nos collègues gynéco qui font des gardes aussi comme nous. Donc on peut pas dire que j'ai vraiment choisi, je me suis rendu compte plutôt a posteriori que il fallait beaucoup travailler la nuit quand même. On commence le matin vers 8h30 et on travaille jusqu'au lendemain 8h30. Quand je travaille de jour, je travaille de 8h à 18h et je vais avoir une activité qui s'arrête jamais pendant toute la journée. On est dans la production, c'est-à-dire que y a un programme opératoire, on travaille sans arrêt, les patients les uns derrière les autres. Quand on est de garde, c'est très différent. Le temps s'écoule pas de la même manière, puisque c'est une activité non programmée, voilà. Donc ça change tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir du travail qui va arriver sans qu'on l'ait prévu. Alors il y a des tâches qui nous reviennent quand même quand on est de garde, donc on fait la visite dans tous les services, donc ça nous occupe le matin. Mais à partir de l'après-midi et jusqu'au lendemain matin, c'est à géométrie variable, ça peut être hyper tranquille, pendant même parfois plusieurs heures, comme ça peut être un peu la course, voire parfois difficile de tout faire. Non, il n'y a pas de pause, mais en fait, il n'y a pas de pause, organisée d'avance. Mais alors là, moi, c'est clair que pour moi, la pause, quand je peux la prendre, elle est prioritaire. Donc, souvent, on s'organise entre collègues, c'est-à-dire que après le déjeuner, ça arrive que on refile notre téléphone à un collègue qui est au bloc pour se faire une petite sieste d'une heure. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais on faisait ça souvent. Et puis, en fait, maintenant, même quand je le fais pas, dans l'après-midi, j'ai toujours un moment. Alors, on a une chambre de garde avec un lit confortable. On est dans un endroit qui est calme, donc on peut s'isoler et trouver le sommeil. Donc, moi, je fais des bonnes siestes l'après-midi en général. Je fais des bonnes siestes. Et puis après, on continue comme ça. Et une nuit, j'allais dire une nuit standard, mais en fait, il n'y a pas du tout de nuit standard. Il n'y a pas de nuit qui se ressemble. Mais disons que rares sont les nuits où on passe la nuit entière sur le pont. On a toujours une heure ou deux ou trois ou quatre dans la nuit pour s'allonger au moins et puis même parfois dormir.
Tous les accouchements ne sont pas programmés à l'avance maintenant ?
Ça s'est fait beaucoup et ça se fait sûrement dans certains endroits et à l'étranger peut-être encore. Ça, je ne sais pas, mais non, là où on travaille, les seuls accouchements et déclenchements, c'est pour des raisons, dont je pense dans la majorité des cas, c'est pour des raisons médicales. Bon, le truc typique, ça va être la femme qui dépasse la date du terme prévu, au bout d'un moment, on déclenche. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas. Ça s'est fait, je sais, à un moment facilement, des déclenchements un peu de convenance. Pour faire plaisir à la future maman, ça doit arriver, mais c'est vraiment à la marge. Non, la plupart du temps, c'est vraiment une activité qui est complètement aléatoire. Et c'est ça qui est assez spécial. Alors, j'avais essayé de faire des stats un peu, et comme il y a toujours cette légende comme quoi, quand c'est la pleine lune, les femmes, elles accouchent plus volontiers à la pleine lune, je m'étais amusé à regarder un peu la répartition sur le... Alors, au départ, ce que j'avais voulu regarder, c'était la répartition sur les 24 heures, savoir si elles accouchaient vraiment toute la nuit. Parce que comme c'est plus douloureux la nuit, j'avais l'impression qu'il y en avait plus la nuit que le jour. J'ai regardé, et pas du tout, en fait. Il y en a autant la nuit que le jour.
Pourquoi c'est plus douloureux la nuit?
Je n'en ai pas encore parlé, mais la nuit, donc... Je dis souvent, moi, j'aime autant l'obstétrique le jour que je ne l'aime pas la nuit. Parce que la nuit, on a envie de dormir, hein, comme tout le monde. Et contrairement aux sages-femmes... qui, elles sont en 12 heures, donc elles arrivent et elles vont faire la nuit sans dormir. Elles n'ont même pas d'endroit pour dormir. Nous, on va essayer de grappiller du sommeil. C'est un peu le but du jeu dans la nuit, c'est de trouver un moment pour aller se coucher et dormir, quoi. Même si on sait qu'on va probablement être réveillé. Mais du coup, à chaque fois qu'on est réveillé, c'est toujours très douloureux. C'est vrai que c'est pas du tout naturel. Et ça m'arrive de me dire, quand on m'appelle à 3h du matin, que je suis dans un sommeil profond, de me dire « Mais pourquoi je fais ce boulot, quoi ? Mais pourquoi je fais ce boulot ? C'est vraiment horrible !» Ça dure 2 minutes, hein. Alors avec l'âge, c'est plus difficile de récupérer, mais moi j'ai une petite habitude de faire ma petite sieste le lendemain de la garde. Et alors le matin, je suis au radar le lendemain de ma garde, et puis le déjeuner après la petite sieste. Et en général, les heures qui me restent après la sieste, j'ai l'impression que j'ai raccroché, quoi.
C'est obligatoire pour vous à la clinique de la sagesse? Vous pourriez pas dire moi finalement je veux plus faire de garde la nuit? C'est pas possible, ça?
Disons que c'est dans nos contrats, on assure la continuité des soins. C'est une organisation entre nous, c'est-à-dire on sait qu'il faut les faire, ces gardes, voilà. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'être bienveillant pour les plus anciens qui disent qu'ils aimeraient bien arrêter, et on leur dit que, on a vu entre nous, on s'est dit qu'à partir d'un certain âge, là aujourd'hui c'est entre 55 et 60, ceux qui veulent arrêter peuvent arrêter. Ça dépend aussi de l'harmonie de la pyramide des âges, mais il s'avère que dans notre équipe, on est assez nombreux, on va pouvoir rester sur ce rythme-là et dire ceux qui veulent arrêter à 55, ils peuvent arrêter. Après, il s'avère que quand j'ai démarré, on était 12, maintenant on est 18, ça fait qu'on a beaucoup moins de gardes. Moi, j'aime bien ça, les gardes, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter, là, aujourd'hui, peut-être ça changera. Et pour une autre raison aussi, c'est que forcément, moins on en fait... moins on vit de cas un peu compliqués et moins on perd en réflexe, peut-être on pourrait dire. Ça veut dire que finalement c'est pas mal d'avoir un minimum de garde tous les mois pour garder la main, en gros c'est ça. C'est pas garder la main pour les péris, hein, ça c'est on perd jamais je pense, mais garder la main sur des choses un peu plus compliquées, ou là avec de l'émotion, avec du stress. Parce que l'obstétrique en anesthésie, c'est aussi ce qui fait qu'on a du mal à recruter, c'est que il y a les gardes, mais il y a aussi les pires catastrophes en obstétrique. La mort, on va dire, ça c'est le pire du pire, mais il y a aussi tout l'éventail des complications qui sont très anxiogènes.
Donc, c'est plus la nuit que le jour,
non ? Non. Ce qui change la nuit, c'est que l'ambiance est différente, donc on est moins nombreux. Le jour, en fait, on a une dizaine de collègues qui sont vraiment à moins de 20 mètres. Si jamais on a des difficultés, on sait qu'on va pouvoir les diluer un peu, se faire aider par nos collègues. La nuit, on est tout seul. On a un collègue d'astreinte qu'on peut mobiliser si besoin. Au total, on le mobilise rarement parce qu'en fin de compte, la plupart du temps, il faut gérer quelque chose qui va pas être très long à gérer. Si bien que si jamais on le mobilisait, le temps qu'il arrive, on aura probablement déjà en grande partie réglé le truc. Ça va être typiquement le saignement, par exemple. Après un accouchement, il y a parfois des saignements qui sont compliqués à gérer. Comme heureusement, la plupart du temps, ça se gère, disons, ça rentre dans l'ordre, finalement, souvent quand même dans l'heure, quoi, on va dire, voire moins même. Là, si on appelle notre collègue, il arrive, c'est réglé. Donc, en général, on gère ça, mais non sans émotion et stress, ça c'est sûr. L'équipe, c'est grosso modo, c'est la même en termes d'effectifs, la nuit et le jour. Ce qui change, c'est l'environnement, puisque le jour, je disais, il y a plein de collègues qui se promènent partout. La nuit, bon, alors je vais dire des bêtises, j'ai peur de dire. Il doit y avoir peut-être 6 ou 7 sages-femmes la nuit, à peu près autant d'auxiliaires de puériculture. Et le pédiatre, les 3 médecins, pédiatre, gynéco, anesthésiste, qui sont à dormir sur place. Donc on a notre petite habitude, c'est ça qui fait que j'aime bien la nuit. C'est un moment où on va pouvoir faire connaissance. C'est le moment où le temps est pas tout à fait le même. Donc on va volontiers manger avec ses collègues. Donc avec moi je mange avec le gynéco d'habitude, le ou la gynéco. En général c'est plutôt la gynéco. Et puis avec les pédiatres. On arrive à se coordonner pour manger ensemble. Donc c'est un petit moment sympa où on fait connaissance, où on approfondit la connaissance. Pour les sages-femmes, elles ne mangent pas avec nous parce qu'elles sont en 12 heures, donc elles n'ont pas les mêmes rythmes que nous. Elles mangent souvent très tard. Moi, j'aime pas manger tard parce que j'ai envie d'aller me coucher.
Les sages-femmes assurent les accouchements?
Ah oui. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fin de compte, les sages-femmes, elles me disaient que finalement, les patientes voyaient plus l'anesthésiste que le gynéco dans un accouchement standard. Moi, j'avais le sentiment qu'ils étaient au moins autant que nous. Mais finalement, en fait, nous, on voit quasi 100% des femmes qui vont accoucher, puisqu'on est à quasiment 90% de péri. Hein, donc, c'est quasiment... c'est 9 sur 10 qui ont des péris. Alors que finalement, les gynécos, ils sont appelés seulement quand il y a besoin. Donc, c'est lorsque la sage-femme, le ou la sage-femme voit que... Voilà, c'est ça, il y a un souci. Donc, ils appellent le gynéco.
Est-ce que vous avez connu les accouchements sans péridurale?
Moi, non, parce que je suis de la génération où on était déjà d'emblée dans ces chiffres-là, 80% peut-être au début. Et puis maintenant, on est rendu à 90. Enfin, je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre quand j'ai commencé et maintenant. À la sagesse. Il y a quand même des accouchements sans péri, hein. Il y en a plein. Il y en a plein surtout depuis qu'il y a une filière qui a ouvert il y a une dizaine d'années maintenant, je pense à peu près, d'accouchements physiologiques. Donc là, c'est des femmes qui souhaitent accoucher sans péri et donc qui vont accoucher dans une unité qui est séparée, qui est, on va dire, un peu jumelle de l'endroit où moi je travaille. Et donc, c'est des femmes qui préfèrent... vivre un accouchement peut-être plus naturel ou plus physiologique avec moins de médicalisation. Donc ces femmes-là sont triées pour que on détecte parmi elles celles qui malheureusement pourraient pas aller dans jusqu'au bout de cet objectif pour des raisons purement médicales. On leur explique pourquoi, on leur dit vous c'est pas assez risqué pour telle ou telle raison, donc vous allez plutôt reprendre la filière normale. Et donc, il y a plein d'accouchements sans péri, mais là, ceux-là, je les vois pas. Mais il y a aussi des accouchements sans péri dans l'unité où on est, nous. Et alors là, c'est soit des femmes qui arrivent trop tard. Il y en a sûrement au moins une par an qui accouche sur le parking ou dans les couloirs. Soit des femmes qui préfèrent pas, qui sont dans la filière normale pour des raisons médicales, mais néanmoins qui peuvent ne pas avoir de péri, qui veulent pas en avoir. Il y a aussi le cas de la péri qu'on n'a pas le temps de poser. Elles arrivent et puis elles accouchent dans la demi-heure. Donc on sait ce que c'est. Et c'est toujours impressionnant en termes de décibels. C'est vraiment très impressionnant. C'est un truc de dingue. Hein. On se dit, mais qu'est-ce que doivent se dire les femmes qui sont en train d'accoucher dans les autres salles? Elles doivent... ça doit leur foutre la frousse. On ne peut pas dire à la dame, mais arrêtez de crier comme ça. On ne peut pas lui dire ça, parce qu'elle a, elle a atrocement mal. Donc, c'est assez terrible. Alors moi, en général, la première chose que je fais quand j'arrive et que j'entends une femme qui crie comme ça, je dis, mais elle a une pérille, la dame, ou c'est une pérille que j'ai posée, ou... parce que bon, ça arrive aussi que nos périlles ne marchent pas bien, hein, mais... donc en général on me dit non mais y a pas... elle est arrivée, elle accouche là, bon voilà, donc mais c'est vraiment impressionnant. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime autant l'obstétrique de jour que je l'aime pas la nuit, mais j'aime peut-être plus l'obstétrique finalement de jour que la chirurgie, peut-être, pourquoi pas. Ou pas, parce que ça me manquerait s'il n'y avait plus du tout de chirurgie, je trouve ça intéressant. Et puis, en fait, on est dans un environnement qui est vachement sympa. On a de la chance, parce qu'on s'entend bien avec nos collègues chirurgiens. Donc, moi, je vais aussi avec plaisir passer une journée avec eux sur de la chirurgie, quelle que soit la spécialité. En fait, ce que je préfère, c'est varier. S'il y avait tout le temps la même chose, je suis sûr que je me lasserais assez vite. Là, c'est vrai qu'on voit tous les... C'est un peu le problème dans notre spécialité, c'est qu'on connaît tout le monde, du coup, parce qu'on connaît toutes les sages-femmes, elles sont plus de 80, je crois, maintenant. On connaît toutes les auxiliaires, on connaît tout le personnel infirmier de bloc opératoire, tout le personnel infirmier anesthésiste. Après, on va faire nos visites, donc on connaît toutes les infirmières dans les services, etc. Si bien que, au début, on était une plus petite clinique, quand même. Donc, on se connaissait pas mal, et mieux qu'aujourd'hui, parce que... Et puis, quand on arrive, on a la mémoire encore un peu vive, donc je connaissais tous les prénoms, etc. Maintenant, c'est difficile pour retenir tous les prénoms, et donc comme nous, on est identifié parce que quand on fait la visite, bah, c'est le bonhomme untel qui fait la visite, donc les gens me connaissent, moi, mais moi, j'oublie les prénoms. Alors ça, c'est horrible, parce que du coup, salut Loïc, je sais plus comment il s'appelle. Je disais tout à l'heure, le temps s'écoule pas de la même manière. Je disais aussi qu'on partage nos repas. Et... Si je prends l'exemple, par exemple, d'une césarienne en pleine nuit, tout le monde est debout. On est tous réunis pour la même raison, pour faire une césarienne. Donc, je précise, hein, c'est une opération quand même, une césarienne. Hein, ça se passe au bloc opératoire. Moi, j'aime vraiment les césariennes de nuit. Je trouve que ça a un côté assez sympa. Souvent parce que tout le monde a des yeux, tout le monde est complètement ensommeillé, qu'on va dire. On est tous un peu au radar. Et puis quelque part, on est fiers d'être... Enfin, moi, je ressens un peu ça, le fait d'être fier de partager ce moment où on sait que la personne, elle va nous être très reconnaissante de ça, quoi. Et donc, c'est vachement sympa comme position. C'est gratifiant, ouais. Ça, on le ressent quand même. On est tous assez fiers d'être là et d'être autour de la dame... et de s'occuper d'elle et de voir de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Ouais.
Je constate qu'en fait vous aimez assez bien travailler la nuit.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ça me manquerait si ça s'arrêtait. Ouais.
Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te, e quando infine spunta l'alba c'è solo il vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzire. La notte. La notte.
Sois-y Globaille s'entretenait avec Loïc Mounier, anesthésiste à la clinique de la Sagesse à Rennes. On la retrouvera bientôt pour à nouveau nous parler des métiers de la nuit. Vous avez pu entendre en illustration musicale le titre Night Sight de R et puis la note T par le Piccola Orchestra, Avion Travel. À suivre dans cette émission de Boule Vanille, la rediffusion de Chant Libre A, saison 2, épisode 2. J'avais pu rencontrer le 25 octobre 2024 Simon Rochepeau, scénariste de bande dessinée qui travaille beaucoup sur le récit documentaire. Il nous parlera pas mal de L'Homme qui en a trop vu avec les dessins de Isaac Vance. C'était paru aux éditions Futuropolis et ça raconte l'histoire de Ali Arkady, photojournaliste envoyé couvrir le conflit irakien. Aujourd'hui, on va parler avec Simon Rochepeau. Bonjour Simon.
Bonjour.
Qui est scénariste de bande dessinée, après avoir pratiqué d'autres professions, d'autres moments dans l'imprimerie, la presse, la publicité. Ça fait 12 ans que tu es aussi graphiste indépendant. Mais là, on va parler plus de ce qui t'intéresse dans la pratique de l'écriture de scénario. Et puis, on va se balader à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, puisque c'est ça, tous les derniers vendredis du mois, Champs Libres A. On va s'intéresser à ce parcours qui commence en 1970 en Anjou. Tu n'en as peut-être plus beaucoup de souvenirs de ces tout débuts. Et puis qui arrive jusqu'à la publication en avril dernier, mais il y aura aussi des choses qui arrivent ce week-end avec le festival Quai des Bulles. Il y a eu la publication en avril chez Futuropolis de L'Homme qui en a trop vu, un récit documentaire de bande dessinée avec l'histoire de Ali Arkady et puis les dessins de Isaac Wentz et le scénario de Simon Rochepeau, un livre important parce qu'il nous donne à voir les après de Daesh en Irak et en Syrie, avec notamment cette bataille de Mossoul de 2016, octobre 2016 jusqu'à juillet 2017, c'est très court, et pourtant il a vécu plusieurs vies, j'ai l'impression, ce Ali Arkady pendant ce temps-là. Alors évidemment, Champ Libre A, ce n'est pas seulement l'évocation de ce qui préoccupe le plus l'invité du jour, mais on va en parler quand même beaucoup de cette bande dessinée là et puis de quelques autres aussi qui ont été parus également chez Futuropolis, L'Homme au bras de mer, c'est l'itinéraire d'un pirate somalien, et puis aussi La ZAD, c'est plus grand que nous. On voit dans ce qui te préoccupe en tant que scénariste, et bien les sauts et les soubresauts du monde, que ce soit du côté de Notre-Dame-des-Landes ou du côté de Fallujah, Mossoul, et puis dans la mer Somalie. Alors, si je disais que ta vie commence en 1970 en Anjou, quand commence ton goût pour les histoires qu'on te raconte ou que tu te racontes?
Ouais, en fait, c'est marrant, c'est comme si finalement, même si je suis né en 70, ça commence vraiment quand je publie mon premier bouquin. C'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, d'écrire des histoires. En fait, j'en ai toujours écrit depuis tout gamin. Je me souviens que je faisais des scénarios de films quand j'étais gamin et que je les faisais jouer par des Playmobil. Donc en fait, je remercie la fabrique Playmobil de m'avoir donné le goût des histoires. Ouais, bah j'en ai toujours lu la BD. Ça a été très évolutif. Ça a commencé comme un peu tout le monde avec les Tintins, les Astérix, les grands classiques, et puis un petit peu après sur des trucs un peu interdits chez moi, des fluides glaciales, fluides glaciales que je trouvais chez mon cousin, lui il avait le droit, moi j'avais pas le droit. Et Gottlieb, ça c'était une méga référence pour moi, c'était en me disant putain, mais tout est possible dans la BD, et y compris d'être irrévérencieux, de pouvoir de... enfin voilà, c'était là, il y a des horizons qui s'ouvraient, même si je suis du coup venu moi vers de la BD documentaire et qui est pas a priori drôle. En même temps, écrire une BD comique, ça me brancherait bien aussi.
Ça pourrait arriver donc dans la vie de Simon Rochepeau.
Ouais.
Alors, on voit, c'est vrai qu'à travers les titres publiés depuis 2013,
oui.
12 France avec le dessinateur Lionel Chouin, ouais. Jusqu'au tout dernier, eh bien, on est dans l'état du monde en Ukraine, dans une zone à défendre, et puis aussi du côté de l'après Daesh. Alors, à quel moment tu t'es dit, oui, ok, c'est bien Gottlieb, c'est bien le rubrique Cabrac et puis Fluide Glacial, mais il y a des choses plus sérieuses qui m'excitent aussi.
Bah, disons que la BD documentaire, c'est Joey Sacco. Hein, et Joey Sacco, il est aussi publié par Futuropolis. Il y a un auteur que j'admire aussi, jusqu'à le traquer, jusqu'à chez lui, essayer de le trouver dans les festivals. Enfin, je fréquente en tant qu'auteur, puisqu'il est aussi chez Futuropolis, c'est Étienne Davodeau. Je dirais que chacun de ses bouquins, je cherche à comprendre comment il fait. En fait, c'est une référence, quoi. J'ai un peu un maître, quoi.
Tu parles de Joe Sacco. Ouais. On peut aussi imaginer que l'influence de Art Spiegelman a été importante, si c'est pas un auteur de bande dessinée documentaire.
Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est venu plus tard, finalement, quand même. Maos, c'est les années 80. Mais moi, j'ai dû le lire, je sais pas, fin 90, hein, dans les années même 2000, peut-être. Ouais, bah évidemment, c'est la grosse, grosse claque, quoi. Tout ça pour dire qu'en fait l'envie en fait de faire de la BD et d'écrire de la BD, c'était en premier lieu de sortir de mon bureau, quoi. Donc je pense qu'une BD comique, on peut rester derrière son bureau, enfin on n'a pas besoin, enfin voilà, tout est dans l'imagination. Moi j'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin de plus rester derrière un ordinateur toute la journée, et ça s'est déclenché par le premier scénario, mais qui est pas une BD documentaire, même si elle est documentée, mais le second surtout, qui était sur Mohamed, le pirate somalien. Qui m'a obligé à aller en prison déjà. C'est la première fois que je mettais les pieds en prison, puisque Mohamed était en prison la première fois que je l'ai rencontré, et je l'ai suivi pendant plusieurs mois en prison jusqu'à sa sortie. Et j'ai rencontré les gens d'Emmaüs, donc là c'est la première fois que j'allais vraiment sur le terrain, et que j'ai proposé ce scénario à Futuropolis, et c'est eux qui m'ont trouvé le dessinateur, Thomas Azuelos, avec qui j'ai continué après, en allant sur la ZAD avec Thomas, parce qu'on avait un peu le même état d'esprit d'aller rencontrer les gens. Et on est resté aussi plusieurs semaines avec Thomas sur la ZAD, donc c'était mon troisième bouquin, du coup, la ZAD.
Avec Simon Rochepont, on va évidemment se balader entre la bibliothèque des Champs Libres et puis les propres livres de Simon, qui s'y trouvent parfois. Là, il se trouve qu'en ce moment, ils sont un peu empruntés. Bon, voilà, vous les trouverez par exemple à Rennes, à la bibliothèque du Triangle, voilà, pour citer un endroit où on peut aller découvrir le travail de Simon Rochepont. On pourra aussi le découvrir plus avant à travers une rencontre qui aura lieu le 8 novembre aux Champs Libres. C'est dans le cadre des vendredis de la bibliothèque, et puis aussi des dialogues européens, hein, c'est du 7 novembre au 1er décembre. Tu pourras discuter, échanger avec l'essayiste universitaire Romain Huette, qui lui aussi est assez au point la guerre.
Je pense même peut-être plus que moi. Ouais.
Même si l'Ukraine, puisque lui est, semble-t-il, spécialiste de l'Ukraine, notamment de la guerre en Ukraine, l'Ukraine, c'est aussi un sujet. Et puis, une de ses ressortissantes, Inna. Hein,
Inna Shevchenko, ouais.
Qui, elle, est vraiment une femme qui est devenue fémène.
Oui. Ouais, et je suis allé en Ukraine à la rencontre de sa famille. Elle est interdite de passage en Ukraine, en fait, puisqu'elle est maintenant exilée en France. Et j'ai eu un privilège, en fait, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas nombreux à être allés sur ses traces en Ukraine. Donc elle m'a ouvert les portes, finalement, de sa famille. Et je suis allé en 2018, donc bien avant les événements de 2022, 4 ans avant, quoi. C'est vraiment entre 2014, la Crimée, 2018 et 2022, mais loin de me douter que l'Ukraine allait être envahie par les Russes 4 ans plus tard, quoi. C'était un choc bizarre, ouais.
On va se balader entre l'histoire du monde et puis l'histoire de Simon Rochepot dans ce Champ Libre A, avec une première pause musicale maintenant, un disque emprunté à la bibliothèque des Champs Libres, où on va entendre un chanteur que tu as découvert de quelle manière et que tu as écouté combien de temps.
Faut vraiment que, là je vais vraiment être dans le souvenir et l'anecdote. C'est mon père, en fait, donc en 78, du coup je connais la date par cœur, mais c'est à la mort de Brel en octobre 78, qui me dit, enfin qui était pas effondré mais triste, quoi, en me disant oh là là, Jacques Brel est mort, machin. Moi je connaissais pas du tout son nom, mais il y avait cette fameuse pochette là quelque part dans les disques de mon père, et je l'ai écouté une première fois. Ouais, c'est ça.
Tu peux la décrire si tu veux.
En fait c'est Jacques Brel qui est dans un bar à Bruxelles, et d'ailleurs moi j'ai essayé de retrouver le bar, parce que je suis allé à Bruxelles et je suis allé dans les endroits où Jacques Brel devait traîner. Bon, j'ai pas retrouvé exactement le bar, mais je pense que je suis allé boire des bières dans les bars où il a traîné, et je suis allé évidemment dans son musée, qui est tenu par sa fille et son petit-fils. Et en fait, Brel m'a plus abandonné du tout jusqu'à aujourd'hui. Je l'écoute vraiment pas beaucoup, c'est un truc très intime. Et je l'écoute finalement quand je peux avoir des petits coups de blues ou des choses comme ça. Et puis je m'écoute une chanson de Jacques Brel. Mais c'est un truc que j'ai vraiment pas envie d'écouter d'ailleurs avec les autres. C'est un truc qui me consomme. Enfin, ouais, je l'écoute tout seul, en solitaire. Tout ça pour dire que je connais absolument bien le personnage. C'était une espèce de mentor aussi, tu vois. Vraiment une référence. Sa vie est une référence, la façon dont il s'est comporté, la façon dont il est. Donc, quand il se sent piégé, il se barre ailleurs, qu'il n'a pas envie d'être un professionnel de son succès, donc il évite tout ça, qui fait du cinéma, qui fait du théâtre. Ouais, une grosse personnalité, ça a beaucoup compté pour moi, d'autant plus que j'écoutais pas énormément de musique, j'en ai jamais non plus beaucoup écouté. Donc voilà, c'est une référence quoi.
Jeff, vous connaissez la chanson forcément. On n'est pas dans un bureau, non. On est plutôt dans un bistrot. Il est tard et Jeff va pas très bien. Et une écriture aussi vraiment proche de la vie.
Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde, parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde, parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu fais honte à voir les gens se peignent notre tête, foutons le camp de ce trottoir. Viens Jeff, viens. Viens, viens, viens. Il me reste trois sous, on va aller les boire chez la mère Françoise. Viens, je viens, viens. Il me reste trois sous, et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André, paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux, comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non Jeff, t'es pas tout seul, m'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff. Viens, viens, viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Je viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Je viens. Puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais. On aura du fric, je viens. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, ouais, Jeff, ouais.
C'était bien sûr Jeff par Jacques Brel, choisi par Simon Roche pour notre invité aujourd'hui dans l'épisode 2 de la saison 2 de Chant Libre. Ah, petite balade dans l'intimité d'une personnalité du monde de la culture, et puis aussi balade au deuxième étage de la bibliothèque des Chants Libres, où tu as pu nous ramener quelques documents, des CD, des DVD, et puis des livres aussi. Je rappelle donc, Simon Rochepot, tu es scénariste de bande dessinée, avec une grosse composante documentaire tout de même, même si parfois, c'est toi qui te documentes, tu n'utilises pas, ou en tout cas, tu n'as pas les souvenirs d'une personne qui, elle, a vraiment vécu l'histoire. Ouais. C'est le cas, par contre, hein, sur l'homme qui en a trop vu. Tu n'es pas seul au scénario, finalement, là. Vous êtes deux. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ?
Dirais, non, en fait, je dirais pas ça. Je dirais que déjà, Ali parle pas du tout français, un peu anglais, mais sa langue maternelle, c'est le kurde et l'arabe. Et donc, les échanges ont été longs et un petit peu difficiles, laborieux, on va dire, jusqu'au moment où je me suis dit, j'avais de la matière. Donc Ali, c'est un photographe professionnel, reporter de guerre, et qui a été accueilli en France en début 2017, après avoir couvert la guerre contre Daesh à Mossoul. Il est revenu avec un tas de documentation qui m'a donné à voir, en fait. Donc j'avais toutes ces photos, ces vidéos, j'avais des heures et des heures de vidéos, donc j'avais cette matière-là. Et quelques écrits de lui que j'ai fait traduire en français. Mais surtout, je l'ai rencontré pendant un an pour qu'on s'apprivoise, pour qu'il me fasse confiance. Et à un moment, j'ai bloqué 3 jours en Bretagne en me disant « Tiens, on va trouver un petit coin vraiment sympa où on va être isolé aussi et puis tu vas parler dans ta langue. » Et j'ai fait appel à un traducteur en enregistrant tout ça. Et puis après, j'avais une matière énorme que j'ai composée. Là, c'est là que commence vraiment le travail sur le scénario. C'est donc pas lui qui a fait le scénario, c'est qu'il m'a fourni la matière pour faire le scénario.
Ali Arkady, qui a reçu en 2017 le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, c'est là que tu l'as rencontré.
Ouais.
Tu y étais pour quelle raison à cette remise de prix ? Parce que tu savais que tu allais pouvoir rencontrer des gens qui seraient peut-être des pistes vers des nouvelles histoires
non,
que tu écrirais.
Non, c'est marrant, c'est pas du tout ça. C'est qu'on présentait avec Thomas L'homme au bras de mer, qui était sorti quelques mois avant, et on était au Salon du Livre, il y a un tout petit Salon du Livre à Bayeux. Et on passait 2-3 jours là-bas, et il y a une remise des prix le samedi soir, et c'est ce soir-là que Ali a reçu son prix pour le reportage sur la torture qu'il avait documenté un an auparavant. Et moi, ça m'a vraiment frappé d'abord de voir les images sur des grands écrans, c'est vraiment de voir ces images très violentes, et de voir Ali arriver, c'est quelqu'un de très doux, de très sensible, de très réservé aussi. Et de le voir prendre son prix et de sentir aussi un malaise dans la salle et de pas se comprendre pourquoi. Et puis c'est justement parce que j'ai voulu comprendre pourquoi, et puis parce que je connaissais pas du tout le milieu des photoreporters de guerre et que ça m'intriguait par curiosité. Donc j'ai essayé de contacter Ali. Ça n'a pas été facile au début, mais c'est pas du tout parce que j'y allais pour chercher un sujet, mais effectivement, quand on est scénariste, on est toujours à l'affût de sujets, donc on a toujours l'œil qui... on est vraiment à l'écoute quoi, de ce qui se passe autour, et puis voilà.
Il y a cette phrase hein, en tout début, avant même la présentation et la rencontre, le début de l'homme qui en a trop vu, c'est cette phrase d'Emmanuel Lévinas, « Le visage est ce qui nous interdit de tuer
».
Et le visage, c'est vrai qu'il est souvent caché sous un... un sac en toile, on les voit ces exactions, nous, à travers le dessin d'Isaac Renz, et puis les souvenirs, et puis la manière dont tu vas en faire un scénario, ceux d'Ali Arkady. Lui, il photographie, et parfois il va un peu plus loin, en fait. Il sacrifie un peu son éthique de journaliste, parce qu'il sait que sinon, il risque sa peau aussi.
C'est un moment où il a la confiance des gens qui l'accompagnent, et où finalement, il y a une déception de sa part, c'est-à-dire qu'il pensait que ces gens-là étaient, j'allais dire honnêtes, mais c'est pas quand on fait la guerre, c'est difficile d'être honnête. Mais en tout cas, il remarque qu'ils exercent la torture contre des civils innocents, et c'est ça qui va le choquer et qui va documenter pour que cette vérité-là aussi puisse éclater en dehors des frontières de l'Irak. Il joue sa peau, bien sûr.
On lui dit parfois ne t'attache à personne, jamais. Et puis lui, il dit je fais des photos, c'est mon métier, je ne frappe pas. Et puis la page suivante, on est à Paris, et là il dit si j'avais refusé de frapper un jour ou l'autre, il m'aurait tué.
Ouais, c'est ça. Et il exerce son métier d'une façon un peu différente de ses collègues, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris aussi au contact des reporters à Bayeux, c'est qu'en général ils sont envoyés pour des durées très déterminées, courtes, sur les fronts de guerre, ils peuvent passer d'un front à l'autre. Ali, il reste. Ali, il décide de rester. il décide d'exercer ce métier qui en est plus un, en fait. C'est une espèce de... Il se sent obligé de le faire, et donc il reste sur du plus long terme. Voilà, c'est ce qui le différencie des autres.
Alors, ce qui est très frappant dans L'homme qui en a trop vu, hein, c'est le passage de couleurs très crues quand il y a des scènes de torture, on comprend, et puis des choses beaucoup plus floues, un peu de loin pour suggérer, et puis un peu de poésie aussi finalement, qui se transforme en horreur quand il retrouve sa femme, sa fille, il retourne dans, dans sa ville, et là il est devenu un monstre pour elle en fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est des choses qui sont, même en BD, qui sont difficiles à dire, à décrire. Il faut lire Sorge Chalandon par exemple, avec Le Quatrième Mur, qui décrit très bien ces situations de reporters qui reviennent à domicile et qui sont évidemment totalement déconnectés, qui n'ont pas les mots pour dire ce qui s'est passé, qui comprennent que les autres veulent pas les entendre, qu'il y a un silence et que finalement il faut qu'ils aient des oreilles attentives en général. Et depuis peu, ils se font suivre aussi par des psychologues, par des psychiatres, ce qui n'était pas le cas, parce qu'il y a une espèce de truc un peu physique du reporter de guerre, viril quoi, où on va pas avouer que on peut avoir des traumatismes.
Il se trouve qu'en tout cas, après publication de son reportage en 2017, Ali Arkady va subir un choc post-traumatique et les couleurs autour de lui ont viré au gris, en fait, il ne voit plus les couleurs.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est une façon ce livre est une façon aussi d'exorciser ça, de le rendre aussi public. Aujourd'hui, Ali, il est content que ce livre existe, parce que quand on lui pose des questions et qu'il n'a pas nécessairement envie d'y répondre au moment où on lui pose, il prend le bouquin, il dit lisez ce bouquin, vous comprendrez mieux.
On va faire un voyage dans le temps, on va revenir en arrière, en 2013, à l'époque de Douce France, qui n'est pas l'album documentaire.
Non, c'est une fiction.
C'est une fiction, mais qui s'intéresse de près quand même à l'histoire de ce pays. Un pays où on a parfois un peu masqué les choses aussi, à toutes les époques, peut-être un peu plus pendant la période des années 1940, début des années 40. J'arrive là à autre extrait musical, en fait, tu me voyais peut-être pas venir, avec cette fois-ci Lolita Mitsuko.
Ah oui, c'est vrai.
Oh,
Vous écoutez une rediffusion de Champ Libre A, saison 2, épisode 2, consacré à Simon Rochepot, scénariste de bande dessinée. Elle a été diffusée pour la première fois le 25 octobre 2024 sur Canal B. Vous l'avez entendu, cette chanson qui, à sa manière, est aussi un peu documentaire. Hein, Catherine Ringer et Fred Chichin, Lerita Mitsuko, qui racontent des histoires tragiques de personnes qu'on a envoyées à la mort dans des trains. Voilà, des petits trains qui traversent la campagne. C'est pas si bucolique que ça si on s'arrête pas juste à la première écoute, mais qu'on l'écoute un peu plus. Là, Lerita Mitsuko, on les a entendus sur ce disque-là. C'est pas forcément ça que t'aurais choisi, mais j'ai profité de cette possibilité d'écouter Rita Mitsuko pour arriver vers ce livre Douce France, en fait, qui a été le premier que tu aies publié en 2013. Comment il est né, avec la rencontre peut-être avec Lionel Choix ou autrement?
À Rennes, vous savez, il y a l'atelier Pépé Martini, qui est un atelier d'auteurs, dessinateurs, peu de scénaristes à l'atelier, mais beaucoup de dessinateurs. Et moi, j'y allais souvent faire la fête avec eux. Et puis, je suis tombé sur Lionel Choin, avec qui je me suis assez vite bien entendu. C'est lui, en fait, qui m'a, à un moment, dit « Mais toi qui aimes écrire, t'aimes la BD ?» Il m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et en me proposant, en étant à l'écoute de ce que je pouvais lui proposer comme scénario. Et j'ai écrit ce scénario, et il l'a dessiné. On l'a proposé. Ça n'a pas été super simple de le faire publier, mais on s'est accroché à ce que ça soit publié chez Futuropolis. Moi, ça m'a permis de connaître les gens de Futuropolis et de continuer, quoi. C'était une thématique qui m'intéressait parce que finalement, c'est une génération qui est celle de moi, de mes grands-parents, quasiment celle de mon père, mais il est né juste après-guerre, mon père, mais c'est vraiment la génération de mes grands-parents, et j'avais l'impression que quand j'étais gamin, je lisais énormément de bouquins d'histoire, mais j'avais pas énormément l'occasion d'en parler à mon grand-père, et j'aurais bien aimé savoir comment lui, il avait vécu ces moments-là. Trop jeune pour le faire, j'ai jamais pu poser des questions. Donc c'est autour de cette thématique-là que le bouquin se tourne.
On n'a pas écouté Charles Trenet pour autant, hein, on a écouté Lerita Mitsuko. C'est quoi, c'est vers un peu plus que l'adolescence, non, l'adolescence que tu découvres ce duo-là?
Lerita Mitsuko, c'est des trucs, j'ai 15-16 ans, quoi. Après c'est des trucs qu'on écoutait en boucle avec les copains, on dansait comme des tarés dessus en se bousculant, c'est vraiment des souvenirs festifs. Et puis dans le paysage musical français, en fait, c'était un ovni, quoi. Et puis justement, le petit train, quand Catherine Ringer a écrit cette chanson, ça correspondait pas à l'image finalement qu'elle donnait. Il y avait un truc plus profond que personne connaissait, et qu'elle a fini aujourd'hui, en fait, c'est Catherine Ringer, enfin c'est cette personne aussi, avec tout ce passé, toute cette il y a un truc de souffrance aussi là-dessus, il y a des fêlures qui sont intéressantes, quoi.
On va rester en musique et on va aller vers le chaos sonore carrément. Est-ce que la musique du musicien qu'on va entendre était autre chose que de la musique, ça pourrait pas être une bataille un petit peu quand même?
C'est ça.
On l'écoute et puis on en reparle juste après. Et puis on va se diriger vers autre chose que de la musique ou de la bande dessinée, mais avec toujours l'intimité au cœur, en fait. On parlera de cinéma je vous le dis un petit peu, un spoiler déjà, de Piala et puis de Bruno Dumont. Mais pour l'instant, on écoute Alan Vega.
Thank you.
vous écoutez Champ Libre à Simon Rochepot, scénariste de bande dessinée aujourd'hui sur Canal B, invité parce que L'Homme qui en a trop vu est un très bel album de bande dessinée documentaire chez Futuropolis avec les souvenirs d'Ali Arkady, photo-reporter kurde d'Irak, et puis le scénario de Simon Rochepot, notre invité, et les dessins d'Isaac Wentz. On écoutait à l'instant un musicien new-yorkais, enfant terrible d'une scène punk, parce que lui fait du punk mais juste avec des synthétiseurs, avec son pote Martin Rev à l'époque de Suicide, c'était Alan Vega. Un album tardif, hein, 2021, ce Mutator. Peut-être c'est pas comme ça que tu l'as découvert. Et puisqu'on a envie d'avoir des anecdotes croustillantes sur l'histoire de nos invités, eh bien, tu peux nous parler de ta rencontre avec Alan Vega.
Ouais, c'était lors d'un concert au Transmusical. Je crois que c'est en 95 ou 96, faudrait vérifier. En fait, pour dire la vérité, c'est que je le connaissais pas. Je l'ai vu pour la première fois là, j'ai découvert sa musique la première fois là. J'ai vraiment une culture musicale assez éclectique et des fois j'ai envie de dire un peu minable. Disons que je fonctionne à l'émotion et je peux aimer des choses très très variées, mais en tout cas je connais pas l'histoire des groupes ni l'histoire de la musique. Je la découvre au fur et à mesure parce que mes copains de ma génération, eux, ont une ouverture plus grande que moi sur ça. Et en fait, c'est juste pour dire que quand il est arrivé sur scène, j'étais subjugué en même temps amusé parce qu'il avait une sacrée, il y avait quelque chose de clownesque en fait. Et ça me faisait sourire. Et puis je voyais en fait des gens autour qui étaient très sérieux, qui prenaient ça très au sérieux. Donc je me suis posé des questions après. Mais après, je suis parti complètement dans le concert. Il m'a complètement convaincu. Et du coup, c'est ensuite que j'ai découvert sa musique, quoi.
Et qui peut inspirer parfois des moments d'écriture, ou est-ce que tu n'écris pas du tout en musique?
Non, j'écris pas du tout en musique. Non, je suis pas du tout inspiré. C'est marrant. Hein, j'ai besoin de calme, au contraire. J'ai jamais un casque sur les oreilles pour écrire. Après, il y a selon des thématiques, par exemple, je voulais parler un petit peu de Florent Marchais sur son dernier album qui m'inspirait sur ces milieux un peu de la France périurbaine, de la France même campagnarde, où lui, il avait vraiment des textes qui sont très forts et que j'écoute parce qu'ils peuvent me donner des ambiances, en fait.
Des ambiances que tu vas rechercher dans la lecture de l'actualité, j'imagine, constante, en fait.
Ouais.
Et aussi peut-être chez des réalisateurs qui eux aussi aiment mettre leur caméra tout près des gens, tout près de la vie, tout près des sensations.
Bien sûr, si on parle de Piala par exemple, Piala c'est une grande référence aussi dans mon panthéon personnel de tous ses films en fait. J'ai toute sa collection, je vais pas dire que je les revois, j'ai peut-être même pris sa filmographie un petit peu à l'envers. Je pense que ça a peut-être commencé par Le Garçu, puis je suis remonté voir même La Maison dans les Arbres. La Maison dans les Bois, qui est une série de 8 heures, je crois, pour la télé française, qui date de la fin des années 60. Ouais. Pourquoi Piala? Parce qu'il fait du cinéma autobiographique, en fait. C'est-à-dire qu'il fait jouer par des acteurs ses propres... sa propre personnalité, ses propres personnages, des moments de sa vie, et que son cinéma m'intrigue parce qu'il est vraiment proche du réel, en fait. C'est du cinéma. Alors après, quelle méthode? Je pense qu'aujourd'hui, les méthodes qu'il utilise vont être décriées.
Je pense pas que Sandrine Bonner en dirait beaucoup de bien, ouais. Par exemple.
Ouais, c'est ça, ouais. On sait que sur les tournages, c'était pas un personnage facile. Mais on voit aussi que c'est un mec qui souffrait énormément. Et pourquoi? Enfin, on en revient à son enfance, c'est pour ça que j'ai choisi aussi L'Enfance Nue, qui est peut-être un de mes films préférés, parce que ça traite de l'enfance, évidemment, et que c'est aussi la sienne qu'il met en scène, et que c'est hyper documentaire, filmé comme un documentaire. C'est vraiment un film fascinant.
Eh bien, il y a des correspondances comme ça qui peuvent se faire entre deux invités de Champ Libre A, puisque dans l'épisode 5 de la saison 1, l'écrivain rennais Antoine Filias l'avait aussi mis dans son panthéon personnel. Antoine Filias, d'ailleurs, je vous le dis, hein, qui est animateur sur Canal B de l'émission Le Tri Sélectif. Voilà. Okay. Tout est dans tout et tout est dans le grand tout. On peut imaginer que Piala d'un côté, ouais, et puis celui dont j'ai entre les mains un pavé. Ouais. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Benjamin Thomas qui nous propose le cinéma de Bruno Dumont en fragments alphabétiques.
Oui.
C'est un héritier aussi de Piala Dumont.
Oui, je pense, ouais. En tout cas, ils ont peut-être en commun justement le Nord, peut-être, mais pas que. Je pense que Dumont, il avait aussi commencé par du documentaire, et surtout, il prend des acteurs, enfin, il prenait, parce qu'il a changé sa technique de cinéma, mais il prenait des acteurs non professionnels. Il faisait tourner, comme Piala au début, hein, il faisait tourner des acteurs qui n'avaient pas de formation d'acteur, en fait. Et donc, arrivés, tous les deux cherchent la vérité, cherchent la vie, en fait, vraiment, mais la vie telle qu'elle est, telle qu'on pourrait planter une caméra sur une séquence, mais les acteurs doivent oublier que la caméra est là. Quelquefois, le film déborde sur la scène. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent vraiment dans la façon de filmer, d'aborder le cinéma, d'être acteur, d'être metteur en scène. C'est, ouais. Ouais, ils ont vraiment des correspondances fortes, ouais, finalement. Ouais.
Et Dumont qui peut toucher à des cinémas qui ont l'air différents les uns des autres. Bah, c'est une
évolution. Hein, mais j'aime bien voir évoluer, même si j'ai pas vu son tout dernier film, mais voir ce qu'il a fait, Le Petit Quinquin, qui est un truc complètement, enfin, qui part dans quelque chose de plus farfelu, mais aussi avec des non-acteurs. Et puis à un moment, il fait tourner Lucchini. On se demande pourquoi il va chercher Lucchini, Binoche, qu'est-ce qui leur plaît dans ses personnalités, enfin, qu'est-ce qui lui plaît, lui, dans ses personnalités, et eux, de venir vers ce cinéma-là, c'est assez étrange. Et puis un des derniers films que j'ai en mémoire, c'est France, avec Léa Seydoux, qui est aussi un film d'ailleurs sur la façon dont on diffuse l'information ou dont l'information vient à nous. C'est vrai, c'est un film sur le reportage aussi de guerre d'ailleurs.
C'est forcément pas anodin qu'il n'ait plus alors.
Ouais, mais je fais le lien maintenant sans avoir pensé à ça avant. Ouais. Ouais.
Quand on est scénariste de bande dessinée comme ça et qu'on a recours à des histoires et on va les transformer pour les rendre un scénario de bande dessinée. Comment c'est possible de se dire ça va me suffire comme source? Non, il y a d'autres sources qui viennent augmenter discours.
Mais c'est marrant enfin tu viens de dire transformer, et c'est ça en fait finalement qui, comme on parlait de Piala, c'est la transformation de la vie. C'est-à-dire que là je transforme la vie pour qu'elle soit lisible, en la vie d'Ali là, pour qu'elle soit lisible pour le lecteur de bande dessinée qui connaît pas du tout sa vie. Donc effectivement, il y a ce prisme, il y a cette transformation par l'écriture. Moi, je garde toujours en tête en fait d'être le plus proche possible du vécu d'Ali et que lui-même se reconnaisse dans ce que je vais écrire. Donc là, je lui ai fait lire, il est revenu sur très peu, mais c'est mon regard sur lui. Mais j'essaye d'avoir cette grande proximité, cette intimité en fait avec Ali pour traduire le mieux possible ses émotions, quoi.
Ali qui est photoreporter, Ali qui est un artiste surtout, qui a fait deux fois les Beaux-Arts en Irak et puis dans le Kurdistan et puis ensuite à Paris.
Ouais.
Comment tu le vois, toi, son évolution du moment où tu le rencontres en 2017 à Bayeux et puis le moment où là, il est diplômé des Beaux-Arts de Paris et puis propose des gravures un peu particulière.
Ouais, c'est ça. Bah, d'une part, traumatisé, il peut plus retourner sur les lieux de guerre. Il continue à faire un peu de reportage. Là, par exemple, il est sur un sujet sur les réfugiés en France. Donc, il fait toutes les frontières. Il est allé sur la frontière polonaise-ukrainienne. Il continue à faire son métier de photos, d'images, etc. Et puis, effectivement, il développe une technique qu'il a mis lui-même au point, en fait, c'est d'imprimer ses anciennes photos, photos d'Irak, et pas que, enfin, des photos de ses reportages précédents, sur des gros blocs de pierre lisses qu'il a trouvés aux Beaux-Arts, qui allaient partir à la déchetterie, et qui eux-mêmes ont une histoire, ces blocs, qui ont une histoire à Paris, qui sont aussi l'histoire des Beaux-Arts de Paris. Et il imprime ça, et il met ça en scène aussi, c'est-à-dire qu'il fait des scénographies avec ses blocs, avec ses photos, C'est assez, pour moi, c'est la prolongation évidemment de son travail de reporter, qui touche la mémoire en fait, qui touche une façon de transmettre et que ça reste en fait, que ça soit, il y a un côté indestructible.
On a parlé tout à l'heure de ce traumatisme qu'il vit, lui, Ali Arkady. Est-ce qu'il n'y en a pas un aussi, quand on a vu, et c'est votre cas à tous deux en fait, hein, Isaac et toi, quand on a vu ces photos d'abord sur grand écran à Bayeux, et puis ensuite, j'imagine, vous avez vu les photos d'Ali, est-ce que ça, c'est pas traumatisant aussi ?
Si. Si, bah après, c'est pas comparable évidemment, donc je vais pas comparer
non, c'est sûr.
Les traumatismes d'Ali, mais oui, en fait, mais c'est de la même façon que les journalistes qui couvraient les attentats du 15 novembre se repartaient du tribunal complètement traumatisés, bouleversés, et qui avaient besoin aussi d'une aide psychologique. Moi, j'ai pas eu cette aide-là, mais en fait, j'ai mis un peu de temps à m'en relever, ouais, et un peu de temps à travailler sur autre chose, ouais.
À travers cette bande dessinée, L'homme qui en a trop vu, on a la possibilité de connaître l'histoire, celle très récente, dans son horreur, avec quand même une distance, finalement, c'est plus confortable pour nous, le lecteur.
Bah, je vous le souhaite, j'espère. J'espère que c'est pas une lecture trop traumatisante, mais je sais qu'elle est pas drôle. J'ai envie de faire des livres qui restent aussi.
Tu nous parlais tout à l'heure, Simon, du fait que tu aimerais écrire une bande dessinée scénarisée, une bande dessinée d'humour, peut-être en digne descendant de Gottlieb. Je ne sais pas si tu te vois comme ça, sans doute pas à travers les scénarios que tu as pu écrire jusqu'à présent, mais tu crois que c'est imaginable véritablement que tu pourrais le faire ?
Ouais, en fait, j'ai commencé à le faire. J'espère que ça verra le jour et ça va nous faire un enchaînement sur Miossec, parce que c'est avec Lionel Chouin que je continue à voir régulièrement, on s'échange des envies, des projets, et là on est tous les deux des grands fans de Miossec depuis le premier album, qui pour nous était un espèce de choc aussi révélateur, et on suit Miossec un peu dans tous ses concerts sans avoir jamais osé l'aborder, alors que ça doit pas être trop compliqué.
D'aller boire un coup avec lui au bar, c'est possible.
Ouais, c'est ça, mais on a jamais fait ce pas là, mais par contre on a envie de lui rendre hommage et de mettre notre fanatisme en scène à travers une BD qui sera complètement déjantée. Ouais.
On peut imaginer que si elle est basée sur sa vie, ça sera forcément déjanté. Ouais. Non, je ne suis plus sous. Peut-être pas. Vous l'avez déjà entendu sur Canal B, bah oui, parce que c'est sorti au milieu des années 90 déjà. Et on écoute Miossec, donc choisi par Simon Rochepot.
Téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te jeûne mon éther. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Non, je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est toi. Accroche pas encore, écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un et tes yeux brillent si fort comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Non, je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien.
On est passé d'un bar de la rade de Brest avec Mieux Sec à l'instant à peut-être maintenant une petite virée en Italie avec un réalisateur que Simon Rochepot nous a apporté, alors pas le réalisateur lui-même, un film, et en tout cas son œuvre, c'est Nanni Moretti. Encore une fois, quelqu'un qui ne peut pas séparer en fait sa vie et son œuvre, où il invoque sans arrêt son passé de militant politique, et puis qu'il est resté militant politique, mais en même temps, il est son meilleur acteur. Il est tout le temps dans ses films pratiquement. Ouais. Nanni Moretti, là, c'est quoi, c'est, tu le vois un petit peu comme une sorte de bienfaiteur amical.
Ouais, c'est ça. Ouais, déjà, c'est quelqu'un qui fait toujours plaisir à voir en fait. Donc, j'espère qu'on le verra encore longtemps, mais c'est vrai que ces films jalonnent un peu tout ça depuis les années 80, l'histoire du cinéma européen, puisque lui-même est romain, italien. Et à chaque fois, c'est d'aller découvrir, de dire waouh, il est là, quoi. C'est une présence qui est amicale et réchauffante, alors que je le connais pas du tout. J'ai essayé d'aller le voir, parce qu'il a un cinéma à Rome, donc j'ai été traîné là-bas en espérant le croiser, mais ouais, évidemment, je l'ai pas vu. Mais il fait un peu partie de la famille, quoi. C'est étonnant. Mais c'est surtout à travers le premier film que j'ai vu de lui, qui est Journal Intime, qui date aussi de 95-96, en fait. C'est marrant parce qu'il y a une période riche, finalement, artistiquement, où j'ai reçu beaucoup de choses à cette période-là, quoi.
Peut-être c'est parce que quand on a 20-25 ans, ouais, on s'intéresse beaucoup au monde.
c'est ça,
production culturelle. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, oui, toi, tu l'apprécies parce qu'il y a ce côté peut-être rassurant aussi, j'imagine, de voir quelqu'un dont on pourrait partager les idées et peut-être une pizza et un coup au bistrot, et ça passerait bien.
Ouais, et puis un engagement politique, ouais, comme tu disais, donc du côté des communistes, évidemment, mais c'est un engagement très fort et qui continue à un militant à travers son œuvre et tout, et avec ce sourire sympathique, en fait, ce truc qui est un peu détaché, contrairement à Piala, justement, qui lui est vraiment un personnage dense, mais pas forcément sympathique, quoi.
Quand on est scénariste de bande dessinée et qu'on traite surtout d'un aspect documentaire, on rencontre du monde, est-ce que on se prémunit du risque de la page blanche, en fait? Il n'y a jamais de page blanche, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui inspire, ou par moment on n'en peut plus, finalement?
C'est une question, j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais il m'est arrivé de travailler sur des choses et de les abandonner parce que je les sentais plus, ou de les laisser dans un placard et dans un tiroir, et d'y revenir 2 ou 3 ans plus tard. En fait, je pense qu'il faut jamais non plus tout lâcher. Il faut sentir les choses, faut le faire avec plaisir, même si c'est pas toujours, enfin, l'écriture de L'homme qui a notre vue, ça a été une partie de plaisir, mais j'ai une BD là qui va être dessinée par Benjamin Bachelier, que j'ai écrit hyper aussi avec beaucoup de documentation, mais où j'ai pris un plaisir fou à écrire. En fait, il n'y a pas de process, hein, c'est à chaque fois différent, quoi. Et c'est ce qui est intéressant.
On attendra en tout cas de la part de Simon Rochepot, il y a une participation à une BD sur Mieux Sec, peut-être aussi une grande BD comique qui détrônera Fab Caro des étals de magasins de bande dessinée, alors que finalement, est-ce qu'on est un peu loin de la bande dessinée avec Fab Caro? Non, c'est du dessin et du texte, c'est de la bande dessinée, c'est sûr. Ouais. Vous retrouvez à plusieurs reprises notre invité Simon Rochepot aujourd'hui dans les semaines à venir, déjà sur week-end, peut-être on te croisera, certains vont faire comme toi avec Nanni Moretti, vont aller du côté du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour espérer te croiser et te proposer une idée d'histoire, parce que tu participes à ce festival qui est des bulles.
Ouais, je monte des expos depuis 3 ans, la première que j'ai montée c'était avec Sur Derf, Bagderf, qui est un super dessinateur indépendant américain.
Mon ami Damer, pour ceux qui...
Ouais, mon ami Damer, et surtout sa dernière BD sur le campus, un campus où l'armée américaine a tiré sur les étudiants. Kent State, que je vous recommande. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre, en fait. Et en attendant les prochaines, j'espère qu'il enfin, il reviendra sûrement à Saint-Malo. Et cette année, c'est plus sur Benjamin Flao, qui est un dessinateur virtuose, édité aussi un peu chez Futuropolis, et dont la dernière BD s'appelle La vie secrète des arbres.
Ne pas confondre avec Riyad Satouf. Hein, c'est pas...
Non, rien à voir.
Vous retrouvez aussi Simon Rochepot le 8 novembre, au vendredi de la bibliothèque, au Champ Libre. Ça, c'est dans le cadre d'une série de rencontres, Dialogues européens. Du 7 novembre au 1er décembre, en partenariat avec l'Institut français. Et là, tu seras en conversation avec Romain Huette, qui lui est universitaire, je le disais tout à l'heure, essayiste, et puis qui a pu peut-être passer du temps en immersion avec des combattants en Ukraine. Mmh. L'Ukraine que tu connais aussi assez bien.
Bah, j'y suis allé en 2018 sur les traces de Dina Shevchenko, pour laquelle on a écrit avec Thomas Zuelos aussi en deux tomes Prénom Ina. Et donc Ina est une porte-parole des FMN, même si le mouvement s'est un petit peu éteint là, depuis quelques années, mais en tout cas elle a une vie passionnante. C'était essayer de comprendre comment on devient fémène à l'âge de 18 ans, et donc c'est aller sur ses traces. Ouais, je suis allé à Kiev et à Kherson. Donc évidemment, c'est quand il y a deux ans, les Russes ont commencé. D'ailleurs, la première ville prise par les Russes a été Kherson. Ça m'a mis un petit choc, ouais.
On a été assez grave pendant cette émission Champ Libre Simon Rochepot, mais on va rester un peu grave, au moins dans la voix du chanteur qui arrive, et pourtant dans un titre assez léger. Ça va nous faire aller vers le soleil, vers la lumière. On terminera donc avec une anecdote que tu pourrais nous narrer à ce propos, si tu veux.
Non, c'est marrant parce que les Tinder Sticks font le lien aussi entre le cinéma et la musique, puisque eux-mêmes ont fait des musiques de films de Claire Denis. Et moi, quand je ferme les yeux sur certaines chansons, je suis dans un western américain. Enfin, il y a des atmosphères. Puis bon, évidemment, la voix de Stuart, c'est ça.
Stuart Staple, ouais. Oui. On termine avec ce titre Harmony Around My Table, ce qui n'est pas tout à fait peut-être le résumé de la carrière de scénariste de Simon Rochepot, parce que l'harmonie, on a du mal à la trouver dans ces histoires-là, mais on est bien autour d'une table. Mais tu aimes aussi sortir de ce bureau.
Tout à fait. Ouais.
Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. À bientôt.
Addicted, I'd be I had some love, but now that was 2 weeks last Tuesday. Since then, there's been a slight feeling. I had a deal, but they broke it Monday. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony around my table.
C'était une rediffusion dans Debout le Vanille et sur Canal B de Chant Libre A, saison 2, épisode 2, diffusé pour la première fois le 25 octobre 2024. Retrouvez playlist et podcast sur canalb.fr. À bientôt pour une nouvelle émission Debout le Vanille sur Canal B. Ciao! What they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony around my table.